France Culture.
Mythologie de Roland Barthes.
Martien. Le mystère des soucoupes volantes a d'abord été tout terrestre. On supposait que la soucoupe venait de l'inconnu soviétique, de ce monde aussi privé d'intention claire qu'une autre planète. Et déjà cette forme du mythe contenait en germe son développement planétaire. Si la soucoupe d'engin soviétique est devenue si facilement engin martien, c'est qu'en fait la mythologie occidentale attribue au monde communiste l'altérité même d'une planète. L'URSS est un monde intermédiaire entre la Terre et Mars. Seulement, dans son devenir, le merveilleux a changé de sens. On est passé du mythe du combat à celui de jugement. Mars, en effet, jusqu'à nouvel ordre, est impartial. Mars vient sur Terre pour juger la Terre, mais avant de condamner, Mars veut observer, entendre. La grande contestation URSS-USA est donc désormais sentie comme un état coupable, parce qu'ici le danger est sans mesure avec le bon droit, d'où le recours mythique à un regard céleste, assez puissant pour intimider les deux parties. Les analystes de l'avenir pourront expliquer les éléments figuratifs de cette puissance, les thèmes oniriques qui la composent, la rondeur de l'engin, le lys de son métal, cet état superlatif du monde que serait une manière sans couture. A contrario, nous comprenons mieux tout ce qui, dans notre champ perceptif, participe au thème du mal, les angles, les plans irréguliers, le bruit, le discontinu des surfaces. Tout cela a déjà été minutieusement posé dans les romans d'anticipation, dont la psychose martienne ne fait que reprendre à la lettre les descriptions. Ce qu'il y a de plus significatif, c'est que Mars est implicitement doué d'un déterminisme historique calqué sur celui de la Terre. Si les soucoupes sont les véhicules de géographes martiens venus observer la configuration de la Terre, comme l'a dit tout haut je ne sais quel savant américain, et comme sans doute beaucoup le pensent tout bas, c'est que l'histoire de Mars a mûri au même rythme que celle de notre monde, et produit des géographes dans le même siècle où nous avons découvert la géographie et la photographie aérienne. La seule avance est celle du véhicule lui-même, Mars n'étant ainsi qu'une Terre rêvée, douée d'ailes parfaites comme dans tout rêve d'idéalisation. Probablement que, si nous débarquions à notre tour en Mars, telle que nous l'avons construite, nous n'y trouverions que la Terre elle-même, et entre ces deux produits d'une même histoire, nous ne saurions démêler lequel est le nôtre. Car pour que Mars en soit rendue au savoir géographique, il faut bien qu'elle ait eu, elle aussi, son Strabon, son Michelet, son Vidal de la Blache, et de proche en proche, les mêmes nations, les mêmes guerres, les mêmes savants et les mêmes hommes que nous. La logique oblige qu'elle ait aussi les mêmes religions, et bien entendu singulièrement la nôtre, à nous Français. Les Martiens, a dit le Progrès de Lyon, ont eu nécessairement un Christ. Partant, ils ont aussi un pape, et voilà d'ailleurs le schisme ouvert, faute de quoi ils n'auraient pu se civiliser au point d'inventer la soucoupe interplanétaire. Car, pour ce journal, la religion et le progrès technique étaient au même titre des biens précieux de la civilisation, l'une ne peut aller sans l'autre. « Il est inconcevable, y écrit-on, que des êtres ayant atteint un tel degré de civilisation qu'ils puissent arriver jusqu'à nous par leurs propres moyens soient païens. Ils doivent être déistes, reconnaissant l'existence d'un dieu et ayant leur propre religion. » Ainsi, toute cette psychose est fondée sur le mythe de l'identique, c'est-à-dire du double. Mais ici, comme toujours, le double est en avance, le double est juge. L'affrontement de l'Est et de l'Ouest n'est déjà plus le pur combat du bien et du mal, c'est une sorte de mêlée manichéiste jetée sous les yeux d'un troisième regard. Il postule l'existence d'une surnature au niveau du ciel, parce que c'est au ciel qu'est la terreur. Le ciel est désormais, sans métaphore, le champ d'apparition de la mort atomique. Le juge naît dans le même lieu où le bourreau menace. Encore ce juge, ou plutôt ce surveillant, vient-on de le voir soigneusement réinvesti par la spiritualité commune et différé fort peu, en somme, d'une pure projection terrestre. Car c'est l'un des traits constants de toute mythologie petite bourgeoise que cette impuissance à imaginer l'autre. L'altérité est le concept le plus antipathique au bon sens. Tout mythe tend fatalement à un anthropomorphisme étroit et quipisé à ce que l'on pourrait appeler un anthropomorphisme de classe. Mars n'est pas seulement la Terre, c'est la Terre petite bourgeoise, c'est le petit canton de mentalité cultivé ou exprimé par la grande presse illustrée. À peine formé dans le ciel, Mars est ainsi aligné par la plus forte des appropriations, celle de l'identité.
Astrologie. Il paraît qu'en France, le budget annuel de la sorcellerie est d'environ 300 milliards de francs. Cela vaut la peine de jeter un coup d'œil sur la semaine astrologique d'un hebdomadaire comme Elle, par exemple. Contrairement à ce qu'on pourrait en attendre, on n'y trouve nul monde onirique, mais plutôt une description étroitement réaliste d'un milieu social précis, celui des lectrices du journal. Autrement dit, l'astrologie n'est nullement, du moins ici, ouverture au rêve, elle est pur miroir, pure institution de la réalité. Les rubriques principales du destin, chance, au dehors, chez vous, votre cœur, produisent scrupuleusement le rythme total de la vie laborieuse. L'unité en est la semaine, dans laquelle la chance désigne un jour ou deux. La chance, c'est ici la part réservée de l'intériorité, de l'humeur. Elle est le signe vécu de la durée, la seule catégorie par laquelle le temps subjectif s'exprime et se libère. Pour le reste, les astres ne connaissent rien d'autre qu'un emploi du temps. Au dehors, c'est l'horaire professionnel, les 6 jours de la semaine, les 7 heures par jour de bureau ou de magasin. Chez vous, c'est le repas du soir, le bout de soirée avant de se coucher. Votre cœur, c'est le rendez-vous à la sortie du travail ou l'aventure du dimanche. Mais entre ces domaines, aucune communication. Rien qui, d'un horaire à l'autre, puisse suggérer l'idée d'une aliénation totale. Et les prisons sont contiguës, elles se relaient mais ne se contaminent pas. Les astres ne postulent jamais un renversement de l'ordre, ils influencent à la petite semaine, respectueux du statut social et des horaires patronaux. Ici, le travail est celui d'employé, de dactylo ou de vendeuse. Le micro-groupe qui entoure la lectrice est à peu près fatalement celui du bureau ou du magasin. Les variations imposées, ou plutôt proposées par les astres, car cette astrologie est théologienne prudente, elle n'exclut pas le libre arbitre, sont faibles, elles ne tentent jamais à bouleverser une vie. Le poids du destin s'exerce uniquement sur le goût au travail, l'énervement ou l'aisance, l'assiduité ou le relâchement, les petits déplacements, les vagues promotions, les rapports d'aigreur ou de complicité avec les collègues, et surtout la fatigue, les astres prescrivant avec beaucoup d'insistance et de sagesse de dormir plus, toujours plus. Le foyer, lui, est dominé par des problèmes d'humeur, d'hostilité ou de confiance du milieu. Il s'agit bien souvent d'un foyer de femmes où les rapports les plus importants sont ceux de la mère et de la fille. La maison petite bourgeoise est ici fidèlement présente, avec les visites de la famille, distinctes d'ailleurs des parents par alliance, que les étoiles ne paraissent pas tenir en très haute estime. Cet entourage semble à peu près exclusivement familial. Il y a peu d'allusions aux amis, le monde petit bourgeois est essentiellement constitué de parents et de collègues. Il ne comporte pas de véritable crise relationnelle, seulement de petits affrontements d'humeur et de vanité. L'amour, c'est celui du courrier du cœur. C'est un domaine bien à part, celui des affaires sentimentales. Mais tout comme la transaction commerciale, l'amour connaît ici des débuts prometteurs, des mécomptes et de mauvais choix. Le malheur y est de faible amplitude. Telle semaine, un cortège d'admirateurs moins nombreux, une indiscrétion, une jalousie sans fondement. Le ciel sentimental ne s'ouvre vraiment grand que devant la solution tant souhaitée, le mariage. encore faut-il qu'il soit assorti. Un seul trait idéalise tout ce petit monde astral, fort concret d'un autre côté, c'est qu'il n'y ait jamais question d'argent. L'humanité astrologique roule sur son salaire mensuel. Il est ce qu'il est, on n'en parle jamais, puisqu'il permet la vie. Vie que les astres décrivent beaucoup plus qu'ils ne la prédisent. L'avenir est rarement risqué, et la prédiction toujours neutralisée par le balancement des possibles. S'il y a des échecs, ils seront peu importants. S'il y a des visages rembrunis, votre belle humeur les déridera. Des relations ennuyeuses, elles seront utiles, etc. Et si votre état général doit s'améliorer, ce sera à la suite d'un traitement que vous aurez suivi, ou peut-être aussi grâce à l'absence de tout traitement. Les astres sont moraux. Ils acceptent de se laisser fléchir par la vertu. Le courage, la patience, la bonne humeur, le contrôle de soi sont toujours requis face aux mécomptes timidement annoncés. Et le paradoxe, c'est que cet univers du pur déterminisme est tout de suite dompté par la liberté du caractère. L'astrologie est avant tout une école de volonté. Pourtant, même si les issues en sont de pure mystification, même si les problèmes de conduite y sont escamotés, elle reste institution du réel devant la conscience de ses lectrices. Elle n'est pas voie d'évasion, mais évidence réaliste des conditions de vie de l'employé, de la vendeuse. À quoi donc peut-elle servir cette pure description, puisqu'elle ne semble comporter aucune compensation onirique? Elle sert à exorciser le réel en le nommant. À ce titre, elle prend place parmi toutes les entreprises de semi-aliénation ou de semi-libération qui se donnent à tâche d'objectiver le réel sans pourtant aller jusqu'à le démystifier. On connaît bien au moins une autre de ces tentatives nominalistes, la littérature, qui dans ses formes dégradées ne peut aller plus loin que nommer le vécu. Astrologie et littérature ont la même tâche d'institution retardée du réel. L'astrologie est la littérature du monde petit bourgeois.
Que l'adulte français voit l'enfant comme un autre lui-même, il n'y en a pas de meilleur exemple que le jouet français. Les jouets courants sont essentiellement un microcosme adulte. Ils sont tous reproductions amoindries d'objets humains, comme si aux yeux du public, l'enfant n'était en somme qu'un homme plus petit, un homonculus à qui il faut fournir des objets à sa taille. Les formes inventées sont très rares. Quelques jeux de construction, fondés sur le génie de la bricole, proposent seuls des formes dynamiques. Pour le reste, le jouet français signifie toujours quelque chose, et ce quelque chose est toujours entièrement socialisé, constitué par les mythes ou les techniques de la vie moderne adulte. L'armée, la radio, les postes, la médecine, trousse miniature de médecin, salle d'opération pour poupée, l'école, la coiffure d'art, casque à onduler, l'aviation, parachutiste, les transports, train, Citroën, vedette, Vespa, station-service, la science, jouet martien. Que les jouets français préfigurent littéralement l'univers des fonctions adultes ne peut évidemment que préparer l'enfant à les accepter toutes, en lui constituant avant même qu'il réfléchisse l'alibi d'une nature qui a créé de tout temps des soldats, des postiers et des vespas. Le jouet livre ici le catalogue de tout ce dont l'adulte ne s'étonne pas, la guerre, la bureaucratie, la laideur, les martiens, etc. Ce n'est pas tant d'ailleurs l'imitation qui est signe d'abdication que sa littéralité. Le jouet français est comme une tête réduite de Givaro, où l'on retrouve à la taille d'une pomme les rides et les cheveux de l'adulte. Il existe par exemple des poupées qui urinent. Elles sont un œsophage, on leur donne le biberon, elles mouillent leur langes. Bientôt, sans nul doute, le lait dans leur ventre se transformera en eau. On peut par là préparer la petite fille à la causalité ménagère, la conditionner à son futur rôle de mère. Seulement, devant cet univers d'objets fidèles et compliqués, l'enfant ne peut se constituer qu'en propriétaire, en usager, jamais en créateur. Il n'invente pas le monde, il l'utilise. On lui prépare des gestes sans aventure, sans étonnement et sans joie. On fait de lui un petit propriétaire pantouflard qui n'a même pas à inventer les ressorts de la causalité adulte. On les lui fournit tout prêt. Il n'a qu'à se servir. On ne lui donne jamais rien à parcourir.
Le moindre jeu de construction, pourvu qu'il ne soit pas trop raffiné, implique un apprentissage du monde bien différent. L'enfant n'y crée nullement des objets significatifs, il lui importe peu qu'ils aient un nom adulte. Ce qu'il exerce, ce n'est pas un usage, c'est une démiurgie. Il crée des formes qui marchent, qui roulent, il crée une vie, non une propriété. Les objets s'y conduisent eux-mêmes, ils n'y sont plus une matière inerte et compliquée dans le creux de la main. Mais cela est plus rare. Le jouet français est d'ordinaire un jouet d'imitation. Il veut faire des enfants usagers, non des enfants créateurs. L'embourgeoisement du jouet ne se reconnaît pas seulement à ses formes, toutes fonctionnelles, mais aussi à sa substance. Les jouets courants sont d'une matière ingrate, produits d'une chimie, non d'une nature. Beaucoup sont maintenant moulés dans des pâtes compliquées. La matière plastique y a une apparence à la fois grossière et hygiénique. Elle éteint le plaisir, la douceur, l'humanité du toucher. Un signe consternant, c'est la disparition progressive du bois. Matière pourtant idéale par sa fermeté et sa tendreur, la chaleur naturelle de son contact. Le bois ôte de toute forme qu'il soutient la blessure des angles trop vifs, le froid chimique du métal. Lorsque l'enfant le manie et le cogne, il ne vibre ni ne grince, il a un son sourd et net à la fois. C'est une substance familière et poétique qui laisse l'enfant dans une continuité de contact avec l'arbre, la table, le plancher. Le bois ne blesse ni se détraque. Il ne se casse pas. Il s'use, peut durer longtemps, vivre avec l'enfant, modifier peu à peu les rapports de l'objet et de la main. S'il meurt, c'est en diminuant, non en se gonflant, comme ces jouets mécaniques qui disparaissent sous la hernie d'un ressort détraqué. Le bois fait des objets essentiels, des objets de toujours. Or, il n'y a presque plus de ces jouets en bois, de ces bergeries vosgiennes, possibles, il est vrai, dans un temps d'artisanat. Le jouet est désormais chimique, de substance et de couleur. Son matériau même introduit à une synesthésie de l'usage, non du plaisir. Ces jouets meurent d'ailleurs très vite, et une fois morts, ils n'ont pour l'enfant aucune vie posthume.
C'est « Mythologie » de Roland Barthes. Aujourd'hui, Martien, lu par Laurent Poitrenaud, Astrologie, par Mathilde Lebréquier, Jouet, par Yann Personic. Prise de son, montage-mixage, Marie-Dominique Bougot, Annick Briand, assistante Céline Terce, réalisation Jean Couturier.